C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
C'est hier. En ont eu pour leur argent. Est-ce que nous sommes maintenant éclairés, aptes à voter? Nathalie.
Ben, je dirais, honnêtement, un peu plus. Paul, si tu permets un commentaire sur la forme avant le fond.
Oui.
Hier, j'ai pris la mesure des moyens dont dispose Radio-Canada pour la tenue d'un événement comme celui-là. Et vous avez vu, là, c'était incroyable, là. Ils ont travaillé des jours et des jours pour monter tout ce setup. Excusez l'anglicisme, là, mais, en fait, le terme anglais. Mais pour monter, là, tout ce, ça faisait très solennel, en fait, comme événement. J'ai aimé la formule, moi. Parce que journaliste, animateur, citoyen, ça nous a permis d'aborder une multitude de sujets. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis aussi, j'ai aussi pris la mesure de l'exigence que commande un exercice comme celui-là pour les élus. C'était leur deuxième débat. Il y en aura un troisième demain en anglais. Alors oui, moi, j'y ai trouvé mon compte, honnêtement. J'y ai trouvé mon compte. Puis je me suis plus à qualifier chacun des chefs de parti hier. J'ai trouvé que Jagmeet Singh était plutôt proche de l'image du gars sympathique. J'ai trouvé Justin Trudeau très combatif. Tant qu'à moi, il a marqué des points. Du côté d'Erin O'Toole, il était tellement prudent qu'il même il projetait l'image de l'énigmatique, là, d'un homme presque énigmatique. Du côté du chef du Bloc québécois, toujours égal à lui-même, tu sais, très, très énergique. Et baveux aussi, là. Et écoute, que le gars s'est permis de rappeler à l'ordre de Patrice Roy, animateur, chevronné, expérimenté. Je trouvais ça un peu fort. Et Annamie Paul, la chef du Parti vert, je la qualifierais d'idéaliste. On la sentait moins confortable que les autres, mais j'ai quand même un exercice qui m'a plu. Je vais laisser Luc commenter, livrer ses premiers commentaires. Puis après ça, si tu permets, Paul reviendrait sur le fond.
Oui.
Mais moi, j'ai toujours de la misère à m'intéresser à ça parce que c'est de la politique fédérale. Puis la politique fédérale, on dirait que les partis et leurs représentants ne sont pas imputables de ce qu'ils disent. Quand on parle d'un déficit qui augmenterait, des dépenses qui augmenteraient de 134 milliards de dollars par rapport aux dépenses actuelles, puis qu'on dit ça sur un ton badin, puis qu'on n'a pas l'air de savoir d'où va venir l'argent... Moi, je fais la comparaison, par exemple, avec la politique provinciale. Hier, Mme Anglade disait il va y avoir des places en garderie pour tous les Québécois. Immédiatement, le ministre en titre lui disait c'est impossible. Et puis, un vrai débat opérationnel avec des chiffres s'engage. C'est toujours le cas au Québec, tu sais, sur l'immigration, sur les places en garderie, sur les infirmières, sur les préposés aux bénéficiaires. Là, t'as, dans les jours qui suivent une déclaration, puis dans les heures, mais dans les minutes même, t'as tout de suite un échange qui s'engage sur l'opérationnel. Au fédéral, t'as déclaration sur les armes à feu. Les positions, t'arrives plus à suivre. On va en parler tout à l'heure, là, puis en détail, puis on va voir comment c'est tout flou, c'est pas attaché, c'est pas intéressant. Alors, ça devient prévisible. Ils font du positionnement. Puis ils font un positionnement sur les valeurs de leur parti. O'Toole le raisonnable, Trudeau le généreux, Blanchette le vigilant, Jagmeet Singh le visionnaire, Madame Paul, responsable de l'orthodoxie environnementale, quoi qu'on en a pas parlé tant que ça. Puis ils sortent pas beaucoup de leur champ de leur positionnement. Et ils font tellement attention aussi à pas faire d'erreurs, à pas transporter une vision trop claire non plus qui pourrait être attaquée. Alors ça donne quelque chose que moi je trouve extrêmement ennuyeux.
Ben, c'est-à-dire que c'est comme un ring sur un ring de boxe. Tu sais, tu veux mettre ton adversaire à KO. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de KO. Mais quand même, il y a eu des moments intéressants. Selon moi, le moment le plus fort du débat, je sais pas, Luc, ce que t'en penses, mais c'est l'échange entre Yves-François Blanchet, qui a vraiment piqué au vif Justin Trudeau. Et on a un extrait. Selon moi, c'est le moment le plus fort qui concerne l'identité québécoise.
Mais s'il faut pas dire aux nations autochtones quoi faire ou quoi penser, pourquoi dit-il à la nation québécoise? Quoi faire et quoi penser.
Parce que je suis Québécois, M. Blanchet. Un
ça
fait que vous,
nom,
que
donne,
vous oubliez
de
constamment. Je suis fier Québécois, que j'ai toujours été Québécois, que je serai toujours Québécois. Mais non, vous ne m'accuserez pas d'être pas Québécois, M. Blanchet.
La démocratie québécoise s'exprime à l'Assemblée nationale du Québec et le premier ministre du Canada.
Au gouvernement
qui me
du Canada
parler, doit avoir peur de quelque chose.
Oui. Et c'est arrivé à la deuxième heure du débat. Tu sais, on commençait honnêtement, là, c'était à la deuxième heure. Hein, mais là, j'écoute, je me suis réveillée. Je dis, oh, là, il vient de se passer quelque chose. Alors, non, mais c'est vrai. Je sais pas, Luc, quelle était ta réaction?
Mais moi, j'ai trouvé que M. Trudeau a été malin de transformer la question de M. Blanchet. M. Blanchet n'a pas dit qu'il n'était pas québécois.
C'est l'art de le faire de la politique.
Mais
mon
oui,
frère,
mais j'ai tout ça, oui. Moi. Ce qu'il a demandé, c'est. Est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui doit se positionner sur une compétence provinciale? Et c'est pas, tu t'es pas québécois ou t'habites pas au Québec. Voyons donc, il a jamais dit ça. Mais M. Trudeau a fait, il a sauté sur ce surf-là puis il a fait du surf pendant 5 minutes. Mais c'est, comme tu dis, tout le monde le fait. Mais bon. Ça m'a déplu.
Mais c'est pour ça que le débat a ses limites. Puis en même temps, c'est sûr que personne veut l'échapper. Mais moi, je trouve que un qui l'a un peu échappé hier, c'est Erin O'Toole, j'ai envie de dire une fois de plus, après les armes d'assaut, les garderies. Et on a un autre extrait sur les garderies, un échange entre Erin O'Toole et Justin Trudeau. Et là, honnêtement, aujourd'hui, si je suis parent, je me pose beaucoup de questions sur le programme du Parti conservateur du Canada.
Monsieur O'Toole ne comprend même pas le système de garderie au Québec qu'on a voulu utiliser pour s'inspirer à travers le pays. Il dit qu'il va envoyer un crédit d'impôt aux familles les plus vulnérables au Québec. Familles les plus vulnérables au Québec ne payent pas pour leur garderie. C'est couvert par l'État. Alors, il n'envoie rien.
Et le plan des conservateurs, parce qu'on parle toujours de plan, c'est 6 milliards de moins dans les poches de l'État québécois.
Ben, voilà. Mais, ah, oui,
mais
oui.
Justement, hier, je trouve que l'essentiel a été annoncé à côté du débat. Il y a trois informations qui nous sont venues qui changent l'allure de la campagne électorale à partir d'hier. Premièrement, le sondage Écosse qui dit que en Ontario, le PCC, le Parti populaire canadien, passe de 4 à 10 % de la faveur populaire. C'est gigantesque. Et chacun de ces votes-là est enlevé au Parti conservateur. C'est énorme. Ça, c'est ce que les Américains appellent un game changer. Et en même temps, on apprend que Trudeau est remonté maintenant. Il est donc, peut-être pour cette raison-là, d'ailleurs, il est maintenant au coude à coude avec O'Toole. Et on sait que s'ils sont au coude à coude, c'est les libéraux qui vont former le gouvernement minoritaire, puisque les conservateurs vont chercher beaucoup de leurs votes concentrés en Alberta et en Saskatchewan. Deuxième information. Et la troisième information qui nous permet de commenter les phrases sur les garderies, c'est l'honnêteté du Parti conservateur qui nous annonce dans sa grande honnêteté, mais qui nous annonce au contraire de ce que M. O'Toole a dit, par exemple. C'est-à-dire que, un, il n'y aura pas d'argent pour les garderies. On enlève le 6 milliards qu'on avait promis que Trudeau avait promis à Québec. Deux, il dit qu'il va financer le déficit avec de la croissance économique. Ça veut dire qu'il va faire marcher l'économie pétrolière à fond, mon Léon. Puis trois, que les transferts qu'il avait promis pour la santé vont être minuscules. Le Québec demandait à lui tout seul 6 milliards, il va offrir pour tout le Canada 3 milliards. Fait que là, hier, ça a changé la campagne électorale.
Mais il y a un élément que Perry va soulever tantôt, c'est que la proposition de O'Toole sur les garderies a un effet domino sur d'autres mesures. Et ça peut changer que des parents soient éligibles ou pas à différents programmes.
Là, c'est mis comme... Mais en plus, c'est 900 millions.
Je te donne un crédit d'impôt, puis là, après ça, ça change la donne, t'as plus le droit à tel programme, puis t'as plus le droit à tel programme.
Ouais, et... là, il a mis le doigt dans un engrenage. Mais en plus, c'est juste 900 millions sur un an. On sait même pas ce qui va se passer les années suivantes. Un pour proposer 6 milliards, l'autre propose 900 millions sur un an. Moi, je pense que là, ils ont été très honnêtes. Hein. Ils ont fait approuver leur cadre budgétaire par le directeur parlementaire du budget. C'est honnête, mais ça change tout.
Ouais, mais Justin Trudeau a quand même mis un chiffre en termes de place sur le 6 milliards qui s'est transféré au Québec sur 5 ans. Il a dit que ça représente 37 000 nouvelles places. Lorsqu'on sait qu'il y a 50 000 enfants qui sont en attente d'une place, je trouve que c'est un argument qui résonne drôlement. Alors, je crois que pour cette raison-là, je partage ton point de vue, Luc, sur l'enjeu des garderies. À être trop prudent, Erin O'Toole se retrouve ce matin sur la défensive. Pour ce qui est de Maxime Bernier, de l'augmentation de ses appuis en Ontario, entre autres, il faut pas s'en étonner, là, à voir les enragés qui suivent Justin Trudeau, son parcours de campagne. Et puis en passant, il faut dire, là, c'est épouvantable là, de lancer des roches à un chef de parti. Là, ça n'a aucun sens. Et moi, je trouve ça extrêmement préoccupant. Des gestes isolés, des politiciens qui ont été hués par le passé, des gestes isolés là, d'individus qui s'en s'en prennent à des chefs de parti, ça s'est produit. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est vraiment, ça semble être organisé. Un dernier commentaire, oui. Paul, si tu permets, sur il y a quand même des questions qui demeurent en suspens. Entre autres, la situation financière des aînés, ça n'a pas été abordé. Et une question d'Hélène Buzetti du Devoir à Justin Trudeau sur comment, sur l'inflation, le fait que le fédéral a énormément dépensé, ça a eu un impact sur le coût de la vie. Il dit, on va gérer cette inflation. Moi, j'aurais beaucoup aimé entendre comment le premier ministre, Justin Trudeau, entend gérer l'inflation.
Très bien. Au retour de la pause, 5 maires, les maires et mairesses des plus grandes villes du Québec voudraient que le fédéral, et on est en campagne électorale pour ça, s'engage à lutter pour vrai contre le trafic des armes à feu.
La commission Normando-Ferrandaise.
Responsabilité pour lutter contre le trafic des armes à feu. Luc.
Et c'est-tu drôle que les deux principaux partis ne veulent rien savoir? C'est quand même incroyable, t'sais, parce que là, ça en est un enjeu ça, hyper important. On a vu dans le reportage de la presse, très beau reportage la fin de semaine passée, sur l'utilisation des armes. Ça a changé. C'est pas seulement qu'il y a plus d'armes, c'est que leur utilisation a changé. Des jeunes qui vont se venger d'une opération qui a été faite, un coup de feu qui aurait été tiré contre l'un des leurs, en allant tirer dans le quartier où le leur habite. Il donnait l'exemple, il s'est produit ça la fin de semaine passée, de jeunes qui sont allés, de membres de gangs de rue qui sont allés tirer dans la fenêtre de l'appartement qui était occupé 3 ans auparavant par la personne qu'ils voulaient effrayer. Mais depuis 3 ans, ils habitent plus là. Donc, ça tire pas dans la bonne direction, pas sur les bonnes personnes, c'est pour faire peur à tout moment, de façon spontanée, cette culture-là du street cred. Le street cred, c'est du crédit de rue, tu sais, puis du name, ils se filment en faisant ça, puis ils mettent sur les réseaux sociaux. Et ça, ça fait une roue qui tourne, tu sais. Plus que tu le mets sur les réseaux sociaux, puis plus tu veux vraiment agir dans la réalité, puis plus tu agis dans la réalité, plus tu veux le mettre dans les réseaux sociaux pour avoir l'air d'un caïd. Ben, c'est ça la culture. Et à ça s'ajoute la disponibilité des armes. C'est deux choses, pas juste la disponibilité des armes. C'est deux choses. Trudeau est incompréhensible sur cette affaire-là. Il y a comme bon sur les armes d'assaut. On se rappelle que c'était il a passé le projet de loi C71 en 2020. Il interdisait 1500 types de d'armes automatiques. Après ça, il est revenu puis a corrigé sa loi en disant oui, mais les propriétaires vont pouvoir la garder pendant 2 ans parce que le programme de rachat d'armes n'est pas encore disponible. Après ça, il est revenu. Puis il a dit, ben finalement, ils vont pouvoir garder leurs armes en rédigeant une promesse qu'ils ne vont pas s'en servir. Mais là, vous pouvez croire que le gars qui fait du tir au pigeon d'argile, lui, il va la signer la promesse puis il s'en servira pas, ou qui fait de la collection d'armes. Mais celui qui a envie de faire une tuerie, ben il faut, tu sais, la promesse, il s'en balance là. Alors c'est incompréhensible, c'est une loi incompréhensible qui a pas de portée. Qui et puis d'ailleurs, il s'est fait remettre à l'ordre par les mères et les filles qui ont été pris la tuerie de la Polytechnique, qui ont dit on veut plus vous voir aux événements dorénavant. On veut plus vous voir. Vous êtes un hypocrite. Alors, je vais laisser Nathalie parler. Excuse-moi, Nathalie.
Oui. Mais non,
pourquoi?
Y a pas de faute,
Pourquoi? Ouais, mais
écoute, Nathalie Provost, qui est une des rescapées, là, survivantes de Polytechnique, a écrit une lettre ouverte. On a eu quelques échanges. Et elle, à chaque année, à la cérémonie où Trudeau se présentait à la mémoire des victimes de Polytechnique, avec toutes sortes de promesses puis d'engagements, je peux te dire que c'est terminé.
Ben oui.
Ils veulent plus rien savoir parce que c'est des paroles en l'air puis c'est jamais concret. Nathalie, vas-y. Ouais.
Ben, mais moi, je peux comprendre. Effectivement, elles se sentent... Polly se souvient, là, les filles, les membres des les familles se sentent trahies. Moi, par contre, Luc, je suis en désaccord avec toi lorsque tu dis que les deux grands partis, c'est-à-dire le Parti conservateur et le Parti libéral du Québec, ne s'intéressent pas à l'enjeu. Ce qui est clair là à partir de maintenant, c'est que l'enjeu du trafic des armes à feu a quitté le terrain de la police pour celui de la politique. Rares sont les occasions, les cinq maires des grandes villes, plutôt, je vais dire ça comme ça, font une conférence de presse commune pour interpeller les partis politiques, pour dire là, il faut bouger, il faut interdire les armes de poing, les armes d'assaut. C'est la seule façon d'y arriver. Lorsque le maire de Québec, Régis Labeaume, déclare que c'est rendu le Canada, rendu le Far West, là, honnêtement, il est pas loin de la réalité. Il y a Pierre Brochet de l'Association des directeurs de police du Québec qui a dit, selon moi, deux choses fort intéressantes. Il a dit, on ne se bat plus, on se tire dessus. Et il a ajouté, on a développé une culture d'armes à feu chez les jeunes criminalisés. Tu l'as dit, Luc, il y a plus d'armes à feu, mais les jeunes ont non seulement accès aux armes à feu plus facilement, mais lorsqu'on dit on a développé une culture des armes à feu chez les jeunes, là, c'est extrêmement inquiétant. Ça prend, oui, un leadership fort de la part du gouvernement fédéral. Peu importe qui formera le gouvernement le 20 septembre prochain, là, c'est un enjeu qui est incontournable parce qu'il en va de la sécurité intérieure du Canada. Alors oui, ça prend un leadership fort sur le plan fédéral, une stratégie là vraiment, une volonté, pas juste une stratégie, là, une loi, ça prend une loi qui a du mordant, une loi qui a des dents. Mais pas uniquement le fédéral, parce que le fédéral va travailler avec les Américains, parce qu'on sait que le trafic d'armes, évidemment, se produit beaucoup à la frontière canado-américaine, mais également les grandes villes entre elles, le gouvernement provincial avec les municipalités, la police avec les organismes communautaires, la ville avec les polices, alors la GRC également. Et des corps de police. Alors, il faut créer un écosystème administratif et politique qui vont nous permettre d'augmenter notre force de frappe. Qu'est-ce qu'a fait Joe Biden il y a quelques semaines? Il a annoncé 5 SWAT pour contrer l'augmentation des homicides dans 5 grandes villes américaines. L'augmentation des homicides étant directement imputable à l'augmentation du trafic des armes. Ça fait que le Canada peut plus vivre dans une bulle, là. Cette réalité.
Mais moi, j'ai hâte de voir parce que tout à l'heure, je te parlais des armes d'assaut, là, cette espèce d'hésitation puis de retour en arrière. Les armes de poing, c'est aussi pire, là. Il a dit qu'elle allait renforcer effectivement les forces douanières pour faire des interceptions. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultat. Après ça, il a dit qu'elle allait donner $1 milliard aux provinces ou aux municipalités pour qu'elles appliquent leurs propres règles sur l'interdiction des armes de poing. Mais ouais, il refuse obstinément de s'en mêler. Et ça, pourtant, c'est une responsabilité fédérale.
Mais Luc, ce n'est pas la solution. Et je suis d'accord avec toi, ce n'est pas la solution d'envoyer ça dans la cour des municipalités et encore moins dans la cour des provinces. Parce que le Québec a peut-être réclamé les pouvoirs en la matière, mais il y a d'autres provinces comme l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta qui disent, nous, là, on ne veut pas s'occuper de cet enjeu-là seul. C'est à toi, le gouvernement fédéral, de t'occuper du trafic d'armes. Pourquoi? Parce que la loi, le code criminel relève du gouvernement fédéral. Ce serait une hérésie de transférer, de se décharger de cette responsabilité fondamentale. Il y a, je rappelle, il s'agit de sécurité intérieure, de criminalité. Alors, il faut que le fédéral exerce effectivement
le leadership. Mais tu sais pourquoi il ne le fera pas, selon moi? Je l'ai dit, je le répète, là, c'est parce que tu ne peux pas régler le problème des armes de poing et des gangs de rue avec du télétravail. C'est impossible. Il faut que tu ailles mettre les mains dans la... Et puis ça, ce sont des opérations sur le terrain. Et des opérations sur le terrain, là, il y a un ex-policier de Montréal qui prenait la parole hier dans une page opinion, je pense que c'est dans Le Devoir, il disait, ça exige de faire des arrestations et parfois des arrestations qui ne sont pas précédées d'enquête. Par exemple, si tu as... un ordre.
C'est ce que la GRC fait en passant. Hein? C'est ce que la GRC fait. Aux douanes, là, les douaniers.
Oui, là, non, mais moi, je te parle dans la rue.
Ils interceptent des armes.
Oui, je te parle dans la rue. Là, par exemple, il disait, une des façons d'arrêter des membres des gangs de rue armés, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un a l'ordre de la cour de ne pas se tenir avec des criminels. Et là, tu vois passer un véhicule, tu sembles reconnaître une des personnes dans le véhicule, il est avec 3 autres personnes, tu arrêtes le véhicule, tu les obliges à s'identifier. Mais ça, c'est tellement proche du profilage racial. C'est très difficile de faire des interventions qui vont pas aller chercher l'opprobre de la population sous forme de dénonciation de profilage racial. Pareil quand tu fais des réquisitions dans des maisons, pas des réquisitions, mais des interventions dans des domiciles parce que tu as eu une dénonciation. Pour toutes ces raisons-là, la police est obligée de faire des interventions qui peuvent se traduire par une accusation de profilage.
Cher commissaire, merci, on a fait le tour. C'est l'heure de la pause, puis on vous retrouve demain vendredi. Les nouvelles du Pont-Champlain.